France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
La troisième conférence des Nations Unies sur l'océan s'ouvre aujourd'hui à Nice et se poursuit jusqu'au 13 juin. Pour l'occasion, on fait le point sur la santé océanique. Aujourd'hui, que sont les dead zones et pourquoi le phénomène s'aggrave-t-il ? Dans ces zones mortes dépourvues d'oxygène, la vie aquatique meurt par asphyxie. La communauté scientifique multiplie les études sur ce phénomène car la situation prend de l'ampleur depuis les années 80. Selon les derniers chiffres de l'ONU, plus de 700 zones mortes sont aujourd'hui recensées dans le monde. Ces zones hypoxiques, voire totalement anoxiques, sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus étendues, tant en pleine mer que sur les côtes. Alors comment enrayer cette désertification sous-marine ? Dead zone, les océans à bout de souffle. Laurent Bob, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes océanographe, climatologue, chercheur au CNRS et directeur adjoint de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Paul Tréguer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes océanographe, professeur émérite à l'Université de Bretagne Occidentale et fondateur de l'Institut Universitaire Européen de la Mer. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici en direct dans nos studios à France Culture et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous de nombreuses ressources et sur notre compte @sciencesqfd. Alors quels sont les mécanismes à l'œuvre dans l'oxygénation de l'océan et qu'est-ce qui peut les dérégler ? Quelles sont les conséquences des dead zones pour la biodiversité marine ? Et quel est le rôle du réchauffement climatique dans ce phénomène ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre archive du jour. En 1973, on a peur de voir la mer Méditerranée devenir la mer morte.
En Méditerranée, il n'y a plus d'anchois. Et dans 10 ans, ce sont les thons qui auront disparu. Cet avertissement est lancé par le docteur Bombard, directeur du laboratoire de la mer à Marseille, qui a expliqué à Alain Trampolieri les raisons de son inquiétude.
Le thon en Méditerranée est condamné dans les 10 ans parce que, d'une part, on le pêche trop, il y a un overfishing, on pêche trop parce qu'on en a besoin pour les conserveries, etc. Et puis, parce qu'il n'y a pas de reconstitution du troupeau, parce que la frange littorale sur laquelle les œufs de thon donnaient les adultes est tellement polluée qu'il faut maintenant, je ne sais plus combien, de millions d'œufs pour donner un seul thon vivant. Alors, dans 5 ans, ça sera un phénomène extrêmement rare, un thon en Méditerranée. Dans 10 ans, il y en aura pratiquement.
Alain Bombard, à propos des déversements des boues rouges, vous dites, un jour la Méditerranée s'appellera mer rouge. S'appellera-t-elle aussi mer morte ?
Eh bien, tout dépend des pouvoirs publics et tout dépend des gens qui vont maintenant prendre des décisions. Ce qui m'affole, c'est de voir qu'on continue à prendre des décisions sans qu'il y ait le dernier organisme de réflexion qui pourtant a été créé, qui donc devrait être un progrès, qui est le ministère de l'Environnement. Les hommes sont séparés par des frontières artificielles, des frontières politiques. Ils sont réunis par deux éléments qui sont l'air et l'eau. Il faut obligatoirement avoir une politique commune de protection d'une mer ou d'un fleuve international. Sinon, eh bien, si moi je prends la décision d'épurer chez moi, mais que l'Italie ou la Grèce n'épurent pas chez eux, eh bien, je serai pollué par l'Italie et la Grèce. Et si la Grèce décide d'épurer et que la France et l'Italie décident de ne pas le faire, eh bien, la Grèce sera polluée. Par conséquent, c'est une décision internationale. N'oublions pas qu'il y a une vieille notion des eaux internationales. Il faut que dans la loi de protection, cette notion d'internationalisme de la mer soit reprise pour la défense.
Voilà la voix d'Alain Bombard, directeur de laboratoire de la mer à Marseille dans le 13h de France Inter en 1973. Laurent Bob, plus de 50 ans plus tard, quel est l'état de santé de cette mer Méditerranée où se tient l'UNOC 3 aujourd'hui ?
Oui, ça résonne avec nos préoccupations du jour. On a l'impression que 50 ans après, on en est quasi au même point. Alors, quelques bonnes nouvelles. Il y a encore des thons en Méditerranée. Il y a un certain nombre de règles qui ont été mises en place, des quotas de pêche qui font qu'on a encore des thons en Méditerranée. Mais la situation, en grande partie, a continué à s'aggraver en raison du réchauffement climatique, et on va en parler, de la perte d'oxygène, de l'acidification des eaux, et puis d'un grand nombre d'activités humaines qui continuent à affecter l'océan et ses écosystèmes. Donc on en est toujours là. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord ? Est-ce que le traité sur la haute mer qui sera encore discuté à l'UNOC à Nice, ou qui sera discuté ces prochains jours, est-ce qu'on va finir par avancer enfin ?
Paul Tréguer, pour prolonger ce qui vient d'être entendu dans cette archive, quelles sont les pressions qui pèsent sur les océans ?
Oh, elles sont multiples. Nous avons, je viens de One Ocean Science Congress à Nice,
qui a précédé par conséquent l'Assemblée de l'océan des Nations Unies. Ils nous ont eu des témoignages, on peut dire, poignants sur l'état des océans, alors les pollutions en tout genre, alors les plastiques, les rejets de nutritifs, de carbone, etc. Ce qui fait que les zones côtières en général ne sont pas en bon état. Alors, heureusement, ce n'est pas forcément le cas sur l'ensemble de l'océan mondial, mais quand même, si je peux me permettre, pour les zones côtières, il y a le feu.
Pour les zones côtières, il y a le feu. Là, on va parler d'un phénomène qui touche les zones côtières, mais aussi les zones en pleine mer. Laurent Bob, c'est ce qu'on appelle les zones mortes, les dead zones. Quel est ce phénomène? Et à partir de quand, d'ailleurs, parle-t-on de zones mortes?
Oui, alors il faut commencer par dire quelques mots sur l'oxygène dans l'océan, pour bien comprendre ce phénomène de zone morte ou de dead zone. Peut-être que le premier point, qui est un peu contre-intuitif finalement, c'est que dans l'océan, il y a très peu d'oxygène. Beaucoup moins que dans l'atmosphère d'ailleurs. On parle souvent de l'océan comme un énorme réservoir de carbone. Il y a 50 fois plus de carbone dans l'océan que dans l'atmosphère. Mais pour l'oxygène, c'est l'inverse. Il y a 150 fois plus d'oxygène dans l'atmosphère que dans l'océan. Donc de façon naturelle, finalement, ce peu d'oxygène dans l'océan qui est distribué de façon assez hétérogène, ça va conduire à des zones où il y a très peu, voire pas du tout d'oxygène, et puis d'autres zones, au contraire, où il y a un peu plus d'oxygène. Et l'oxygène, c'est super important pour la vie marine. Et donc on a besoin de documenter la façon dont cet oxygène est distribué dans l'océan. Alors, à quel moment parle-t-on de zone morte, de dead zone en anglais? C'est quand les niveaux d'oxygène sont en dessous d'un certain seuil, la zone hypoxique. Donc, on utilise plusieurs unités, c'est un peu complexe, 2 mg d'oxygène par litre, 60 micromoles d'oxygène par kilogramme. C'est ça les limites qui nous permettent de nous positionner dans cette zone hypoxique où l'oxygène vient à manquer pour les organismes qui en ont besoin. Et donc, on documente, en zone côtière en particulier, mais aussi dans l'océan ouvert, à grande profondeur, des zones où il y a très peu d'oxygène. En zone côtière, on a pris l'habitude d'utiliser le mot zone morte ou l'expression zone morte parce que, avec ces faibles niveaux d'oxygène, on a une vie très différente et beaucoup des organismes qui ont besoin d'oxygène, on les retrouve pas dans ces zones mortes.
Paul Tréguer, en effet, pour un peu plus plonger, entre guillemets, sur la façon dont l'océan est oxygéné, à quel point, justement, en temps normal, les eaux saines contiennent-elles de l'oxygène dissous et à quel point c'est important?
Eh bien, normalement, puisque, comme Laurent vient de le dire, le stock principal d'oxygène est dans l'atmosphère. Donc la couche de surface est normalement oxygénée. Et à l'époque, on imaginait que plus on s'enfonçait dans l'océan, moins on allait avoir d'oxygène. Et puis, surprise, quand on a été capable de descendre très bas, y compris à 4000 mètres, 5000 mètres de profondeur, on s'est aperçu que l'océan était finalement relativement oxygéné en bas. Et ceci s'explique par la circulation générale, les courants généraux, dont les fameuses plongées d'eau froide, et donc riches en oxygène, notamment qui viennent de l'Antarctique. Donc ce qui fait que nous allons créer un minimum d'oxygène dans l'océan, avec beaucoup d'océans d'oxygène en surface, et pas trop mal en profondeur.
Laurent Poff, en effet, donc l'oxygène n'est pas réparti uniformément dans l'océan.
Oui, en fait, pour bien comprendre la distribution de l'oxygène, c'est ce que vient de dire Paul, il y a une importance capitale des courants marins qui vont oxygéner les eaux profondes. En fait, au moment où les eaux froides vont plonger en profondeur, parce qu'elles sont froides, elles contiennent beaucoup d'oxygène. L'oxygène est plus soluble dans de l'eau froide, et donc ces courants profonds, ils vont amener de l'oxygène en profondeur. Et dans l'océan, l'oxygène est consommé par tous les organismes qui respirent, finalement. Par la dégradation de la matière organique, ça consomme de l'oxygène. Et donc la quantité d'oxygène qu'on trouve dans l'océan va dépendre de cet équilibre entre la quantité d'oxygène apportée par ces courants qui viennent de la surface et cette consommation en profondeur liée à la vie marine.
Alors lorsqu'il y a dead zone, Paul Tréguer, où est-ce qu'on observe justement ces déficits d'oxygène? À quelle profondeur?
Alors, j'ai envie de faire un rebond sur ce que dit Laurent, c'est que précisément, dans la couche de surface, là où il y a photosynthèse, on a donc production. Et certaines zones de l'océan sont très productives. Les remontées d'eau, les abolines comme on dit dans notre jargon, le long des côtes du Maroc, de la Mauritanie, mais aussi du Pérou, de la Californie, etc. Donc on aura des zones qui sont très productives, créent la matière organique. Cette matière organique, une partie d'entre elles, sédimente et passe dans la couche en dessous. Donc elle va consommer de l'oxygène, et donc on va créer naturellement un minimum d'oxygène sans pollution, en quelque sorte. Bien sûr, à ce processus naturel va se rajouter ce qui se passe à l'interface continent-océan, où nous déversons, notamment dans les zones côtières, énormément de matière organique, de matière nutritive, donc on va eutrophiser les zones côtières.
On reviendra sur ces processus d'eutrophisation, mais d'abord, pour bien comprendre le phénomène des dead zones, déjà à quoi ça ressemble en effet, quand on dit qu'il manque de l'oxygène, il en manque où, à quel point, Laurent Bopp ?
Oui, alors peut-être sur le vocabulaire, et pour revenir un peu sur ce que dit Paul aussi, finalement on utilise plutôt le terme ou l'expression dead zone pour ce qui se passe en zone côtière, à assez faible profondeur, en lien avec les impacts de l'homme et donc l'eutrophisation dont on va reparler. Les zones dépourvues d'oxygène dont on parle dans l'océan ouvert, qui peuvent être à assez grande profondeur, hein, entre 100-200 mètres jusqu'à 1000 mètres de profondeur dans certaines zones, on parle plutôt de zones de minimum d'oxygène. Et ça, finalement, ce sont des zones naturelles qui ont sans doute toujours existé, alors avec des volumes qui ont dû varier dans le passé, qui ont varié dans le passé. Et donc, on s'inquiète aussi de l'évolution de ces zones. Mais je pense qu'il faut distinguer ces deux types de zones. On parle de la même chose, de l'oxygène, du manque d'oxygène et de l'impact sur la vie marine. En zone côtière, les dead zones, et puis dans l'océan ouvert, les zones de minimum d'oxygène.
Paul Tréguer, je croyais que vous me faisiez signe pour compléter, mais alors justement...
Oui, justement, on peut rebondir là-dessus, parce que la zone à minimum d'oxygène profonde, qui existe naturellement, elle est en train de s'étendre actuellement. Il y a donc plusieurs publications là-dessus, dont une de collègues en Chine, récemment, qui ont montré que depuis 50 ans, l'extension est peut-être un facteur 10. Donc il y a une certaine inquiétude, c'est-à-dire que l'océan, de façon générale, se désoxygénise.
Se désoxygénise, en effet, hein, c'est le dernier rapport de l'ONU, la deuxième évaluation mondiale de l'océan qui date de 2001, qui parle donc de plus de 700 zones mortes aujourd'hui, alors qu'en 2003, un autre rapport de l'ONU estimait à 150 le nombre de zones mortes. Donc en effet, on voit un phénomène en pleine augmentation, Laurent Bopp.
Oui, alors en fait, on a... cette perte d'oxygène. Donc l'océan aujourd'hui perd de l'oxygène pour deux grandes raisons. Donc on peut d'abord parler de ce qui se passe dans l'océan ouvert quand on est en général loin des côtes. Et cette perte d'oxygène, on parle de déoxygénation de l'océan, est liée au changement climatique. Donc cette perte d'oxygène de l'océan de façon générale, elle est liée au réchauffement et elle est liée à la modification des courants, à la stratification de l'océan. On peut le comprendre de façon assez facile finalement, en lien avec ce qu'on a raconté tout à l'heure sur la façon dont l'océan s'oxygénise. Pourquoi est-ce que le changement climatique conduit à une perte d'oxygène de l'océan ? Bah d'abord, parce qu'il se réchauffe en surface, et donc la solubilité du gaz baisse, et les eaux formées en surface qui vont alimenter les profondeurs de l'océan, elles contiennent de moins en moins d'oxygène. Donc ça, c'est le premier mécanisme. Et puis le deuxième mécanisme, on a expliqué tout à l'heure que les couches de surface sont très oxygénées parce qu'elles sont au contact de l'atmosphère. Dans un océan plus chaud, on a moins de mélange entre les eaux de surface et les eaux qui sont en dessous. On a un océan plus stratifié. Ça, c'est parce que les eaux de surface qui sont plus chaudes, elles sont moins denses et donc elles se mélangent moins bien avec les eaux qui sont juste en dessous. Et donc ces eaux de surface très oxygénées, elles se mélangent moins bien avec les eaux qui sont en dessous, donc elles n'apportent plus d'oxygène en subsurface. Et donc ces deux mécanismes, la baisse de solubilité et la stratification, conduisent à un océan en profondeur, en subsurface, qui est de moins en moins oxygéné. Dans les zones côtières, quand on parle de dead zone, c'est un autre mécanisme, on a parlé d'eutrophisation, oui, c'est les apports d'éléments nutritifs liés à l'agriculture, liés aux eaux usées, qui, quand ils arrivent, ces éléments nutritifs en zone côtière, vont conduire à des floraisons d'algues, une production de matière organique, et cette matière organique, quand elle se décompose, va consommer de l'oxygène. Donc on a un peu ces deux menaces qui se conjuguent pour expliquer pourquoi l'océan perd de l'oxygène aujourd'hui.
Et on reviendra dans le détail, dans quelques instants justement, sur ces deux causes, ces deux facteurs. Une géographie des zones mortes et des zones de minimum d'oxygène, où les observe-t-on, Paul Tréguer ? Où ces phénomènes ont-ils lieu ?
Un peu Alors je sors, comme j'ai dit tout à l'heure, d'un congrès scientifique à Nice. Là. On a eu la chance d'avoir un collègue chinois, Milan Dai, de l'université de Xiamen, qui nous a fait un récapitulatif des principaux points mort, enfin, zone morte, en l'occurrence, quoi. Et sans doute qu'un des modèles pour nous, mais on va en rediscuter de sa validité, c'est la Baltique. La Baltique est intéressante parce que c'est une mer semi-fermée. Il faut donc se souvenir que c'est un système à faible taux de renouvellement, c'est-à-dire que pour renouveler ses eaux depuis la mer du Nord, il faut en moyenne 25 à 30 ans. Donc, les eaux de la mer du Nord sont très agitées, hein, c'est bien connu. Donc, ce sont des eaux qui sont bien oxygénées. Et donc, comme c'est une mer semi-fermée, chaque fois que l'on rajoute un peu de matière organique ou un peu de matière nutritive qui crée la matière organique dans l'eau profonde, dans les fosses profondes, eh bien, on va faire tout simplement, on va consommer l'oxygène et donc presque disparaître l'oxygène. On passe de ce qu'on appelle d'une hypoxie à une anoxie, plus d'oxygène, avec génération d'hydrogène sulfuré, ça ne sera pas très bon, et même de méthane éventuellement. Heureusement, ce système, du fait des conditions météorologiques, en particulier en hiver, se renouvelle de temps en temps avec des entrées d'eau de mer de la mer du Nord. Et là, c'est extraordinaire, le système évolue rapidement. On réoxygène la couche profonde et donc le système peut se rétablir. Donc on peut penser que si les hommes font des efforts, et ils en ont fait depuis les années 80, la situation va s'améliorer. Et on va voir tout à l'heure que ce n'est pas si simple.
Alors pourquoi ce phénomène prend-il de l'ampleur justement? Quels sont les différents mécanismes de production de ces zones mortes? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, pour notre semaine spéciale Océan, nous commençons avec un premier épisode sur les dead zones, les zones hypoxiques, sans oxygène. On vient de voir que ces espaces se caractérisent par un déficit en dioxygène dissous qui provoque la mort par asphyxie de la faune marine. On vient de parler des causes de l'eutrophisation ou encore du réchauffement climatique, mais Laurent Bopp, on n'a pas dit qu'au départ c'est aussi quand même un phénomène naturel que certaines zones peuvent être moins oxygénées que d'autres en raison des courants marins.
Oui, c'est ce qu'on a dans l'océan ouvert en grande partie, en subsurface. C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure avec des zones qui sont à l'aplomb finalement des grandes zones productives de l'océan ouvert. On est dans les upwelling côtiers au large de la Mauritanie, du Chili, du Pérou, de la Californie. Et donc dans ces zones, vous avez beaucoup de matière organique qui est formée en surface. Et quand cette matière organique est consommée en profondeur, eh ben on a de moins en moins d'oxygène jusqu'à atteindre des niveaux anoxiques où il n'y a plus du tout d'oxygène. Donc ça, c'est des zones naturelles qu'on connaît depuis très longtemps.
C'est un phénomène naturel, mais on a aussi une situation qui peut être bien pire, comme on l'a vu dans l'histoire avec les événements anoxiques océaniques. On a des grands exemples.
Oui, alors nos collègues paléo-océanographes, paléoclimatologues, documentent l'état de l'océan sur les derniers millions d'années, sur les dernières dizaines de millions d'années. Et ils ont finalement, documentant l'histoire de l'océan, en analysant ce qu'on trouve dans les sédiments marins, ils ont pu documenter des périodes de l'histoire de la Terre où l'océan profond, très profond d'ailleurs, était dépourvu d'oxygène. Et les derniers grands épisodes à l'échelle mondiale, ils datent d'il y a plus de 100 millions d'années. Au Crétacé, on a ces épisodes anoxiques qui sont quasi globaux, dans lesquels finalement l'océan profond, quasiment à l'échelle de la planète, était dépourvu d'oxygène. Alors, on essaie encore d'expliquer pourquoi. Peut-être plus de production en surface, peut-être moins de formation de ces courants d'eau froide qui amènent de l'oxygène en profondeur. Mais sans doute qu'à cette époque-là, cet océan profond anoxique ressemblait pas du tout à celui qu'on connaît aujourd'hui.
Et aujourd'hui, ce sont des zones anoxiques d'origine anthropique. Donc, Paul Tréguer, on a évoqué en première partie une des causes principales de ce qu'on observe en zone côtière, l'eutrophisation, qui vient du grec eutroph, qui vient dire bien nourri. C'est lié donc au rejet de matière organique. De quelle matière organique parle-t-on? Qu'est-ce qui provoque justement
Les matières organiques directement, par exemple les déchets d'élevage ou autres substances de ce genre. Mais il y a aussi le fait que on peut rejeter des matières nutritives comme les nitrates ou les phosphates et donc du coup enrichir naturellement, mais surenrichir le milieu côtier qui va donc créer la matière organique elle-même et comme on disait Laurent tout à l'heure, cette matière organique va ensuite consommer de l'oxygène, surconsommer de l'oxygène. Alors je voudrais juste ici prendre un exemple pour dire que en fait on peut faire beaucoup de bêtises dans notre vie, enfin, de terrien, c'est-à-dire relâcher pas mal de matière organique ou de matière nutritive dans l'océan sans qu'il y ait beaucoup de conséquences. La clé, c'est le renouvellement du système, notamment par les courants de marée. Alors, je vais prendre deux exemples opposés. J'ai parlé tout à l'heure de la Baltique. C'est, comme on dit, atidal, sans marée. Et donc, il n'y a pas de courant qui vont et vient, le flot et le jusant. Je prends un exemple beaucoup plus petit, mais qui est près de chez moi, près de l'Institut d'Université Européenne de la Mer, qui est la rade de Brest, où là, on a fait pas mal de bêtises, et on en fait encore. On rejette, du fait de l'arrière-pays agricole, beaucoup de nitrates. Mais il n'y a pas d'épisode vraiment de déficit en oxygène, sauf vraiment dans les fonds de baie laissés transitoires. Pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure que la Baltique, il fallait 25 ans pour la renouveler. La rade de Brest, il faut une semaine. Les courants de marée, sous mon institut, j'ai 1 milliard de mètres cubes qui passent en 6 heures, qui vont et viennent. Donc c'est de l'eau qui vient du large, qui est oxygénée. Donc en fait, il faut faire attention à ne pas généraliser en l'occurrence la notion de dead zone, de zone morte. Quoi. Tous les zones côtières ne sont pas mortes, heureusement. Ceci étant, ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas que nous contrôlions et que nous diminuons les déchets de matière organique et de nutritifs en mer.
Comme vous dites, il y a quelque chose de l'ordre de la dichotomie parfois entre terrien et merien. On a l'impression que ce qui se passe sur Terre reste sur Terre, alors que ça a des conséquences bien concrètes dans les eaux. Laurent Bopp, on peut justement un peu détailler déjà d'où proviennent ces rejets d'azote et puis quelles sont les réactions chimiques qui ont lieu lors de cette eutrophisation.
Oui, alors ces rejets d'azote qui sont en grande partie liés à l'agriculture et à l'utilisation d'engrais dans le milieu agricole, en fait une partie de l'azote qu'on ajoute dans nos champs, dans nos cultures, n'y reste pas, n'est pas consommée par les plantes et va terminer dans les cours d'eau et in fine à l'océan. En fait une grande partie des pollutions continentales finissent à l'océan. C'est vrai pour les éléments nutritifs, c'est vrai aussi pour le plastique et pour beaucoup d'autres polluants. Et oui, ces apports d'azote et de phosphore, d'azote en particulier, hein, c'est une augmentation de près de 50% entre 1970 et 2000 dans un grand nombre de régions du monde. Et les scientifiques ont pu faire le lien entre cette augmentation des apports d'azote et cette multiplication des dead zones. Vous parliez d'une augmentation d'un facteur 10 quasiment entre 1950 et aujourd'hui, hein, plus de 700 dead zones recensées aujourd'hui. Et donc il y a un lien assez fort entre ces apports d'azote et ces dead zones. Donc on en discute pour la mer Baltique. Les autres exemples très discuté dans la littérature scientifique, c'est le golfe du Mexique, où nos collègues américains ont depuis des décennies documenté l'augmentation de la superficie de cette zone morte dans le golfe du Mexique.
Golfe d'Amérique.
Voilà. Voilà. Je vais rester sur golfe du Mexique. Là, en mer de Chine également, nos collègues chinois documentent ces zones mortes en lien avec le phénomène d'eutrophisation. Donc, c'est un phénomène qui est finalement piloté par une pollution locale et ou régionale, mais qui se multiplie à l'échelle de la planète.
En fait, voilà, ces rejets d'azote, ça va entraîner une augmentation de la biomasse végétale qui va générer progressivement une diminution, un appauvrissement en oxygène. Paul Tréguer, quels sont les organismes responsables de cet appauvrissement en oxygène?
Alors, en fait, ce qu'il faut faut savoir que j'aime pas trop en fait, le terme zone morte, dead zone. Parce que, qu'est-ce qui travaille dans ces zones mortes? Le tout petit, les bactéries. Et elles sont actives. Elles sont si actives qu'elles vous transforment, par exemple, l'excès de nitrate, elles vont vous transformer en protoxyde d'azote, enfin aussi les gaz à effet de serre, ou bien les sulfates en H2S, c'est-à-dire en hydrogène sulfuré, ce qui ne sent pas bon, et même le CO2 en méthane. Donc en fait, c'est peut-être mort dans le sens des grands organismes, ceux qui ont besoin d'oxygène pour respirer, mais c'est une autre chimie, une autre biochimie, qui se déroule et tout à fait normalement dans ces fameuses zones mortes.
En effet, c'est un problème surtout pour les organismes macroscopiques. Mais alors, je reviens sur les organismes qui sont responsables de cet appauvrissement en oxygène, Laurent Bopp.
Oui, on parle de zones mortes, mais finalement, en parallèle du phénomène d'eutrophisation et du manque d'oxygène, il y a d'autres phénomènes associés. La multiplication des algues, des macro-algues en zone côtière, on parle de marée verte, c'est exactement la même chose. Quand on parle des éléments nutritifs qui viennent multiplier la quantité de biomasse, ce qu'on va trouver sur certaines côtes, en Bretagne, et Paul connaît ça très bien, ce sont une multiplication des algues vertes avec d'autres problématiques sur nos côtes. Donc oui, il y a toute une série, finalement, d'événements, de processus qui sont liés à ces apports d'éléments nutritifs en zone côtière.
Les algues vertes, en effet, qu'on connaît bien, Paul Tréguer, en Bretagne, avec les marées vertes.
Et oui, et donc en fait, c'est exactement le même mécanisme. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on excès de nitrate, on va favoriser dans l'eau les algues, alors ce sont des grandes algues, qui vont aimer les nitrates préférentiellement. Ce sont des ulves, dans notre jargon. Elles se développent en masse, et quand elles sont dans des baies, où les courants sont circulaires, les confinent en quelque sorte, elles créent ces fameuses marées vertes, tout à fait détestables. Et en se décomposant, elles créent toujours le fameux hydrogène sulfuré, qui peut être mortel parfois.
Alors, il n'y a pas que le rejet de produits agricoles en jeu, on l'a dit, pour les zones en pleine mer, il y a aussi la hausse des températures. On a évoqué le fait que cela entraînait une évolution vers un océan davantage stratifié. Laurent Bopp, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique, surtout, un océan plus stratifié?
Oui, alors de façon naturelle, l'océan est stratifié. En fait, on a dans l'océan global une couche de surface qui peut faire d'une dizaine de mètres à quelques dizaines de mètres, peut-être un peu plus d'une centaine de mètres, qui est en général bien mélangée. Elle est bien mélangée parce qu'elle est soumise finalement au vent, à la turbulence qui nous vient de l'atmosphère. Et cette couche de surface, elle est en général plus chaude, Elle est riche en oxygène, on l'a dit tout à l'heure, et elle est bien séparée de l'océan plus profond, qui est plus froid, plus dense. Et donc ce qui aujourd'hui est en train de se passer, avec ce réchauffement qui est réparti de façon assez hétérogène, c'est plutôt les eaux de surface qui se réchauffent aujourd'hui. On vient de dépasser les 1 degré de réchauffement en surface, c'est encore une fois un témoignage glaçant, c'est pas le bon terme, du réchauffement climatique. Et le fait que les eaux de surface se réchauffent plus vite que les eaux qui sont en dessous, ça augmente le contraste de densité entre les eaux de surface, moins denses, encore moins denses, et les eaux de subsurface. Et donc cette augmentation du contraste de densité, finalement, elle vient surstratifier l'océan, et donc encore moins de mélange entre les eaux de surface et les eaux profondes. Alors quelles sont les conséquences ? Pour l'oxygène, c'est moins d'oxygène qui pénètre en profondeur et donc c'est une des causes principales de la perte d'oxygène en profondeur dans l'océan. Mais il y a beaucoup d'autres conséquences de cette stratification de l'océan. Une des conséquences, on parlait d'éléments nutritifs, c'est un peu l'inverse de ce qui se passe en zone côtière, c'est qu'un océan plus stratifié, c'est aussi dans l'océan ouvert un océan où il y a moins d'éléments nutritifs. Pourquoi ? Parce que dans l'océan ouvert, les éléments nutritifs, ils sont plutôt concentrés en profondeur. Et donc, dans un océan stratifié, il y a moins d'éléments nutritifs qui remontent, et donc moins de production de phytoplancton. Donc, c'est un peu contre-intuitif, mais on a un double problème, peut-être trop d'éléments nutritifs dans certaines zones côtières, et puis dans l'océan ouvert, où on est plus stratifié, trop peu d'éléments nutritifs, et des projections climatiques qui nous montreraient moins de production phytoplanctonique.
Oui, il y a le Paul Tréguer, le changement climatique affecte aussi donc les courants marins.
Ah oui, fondamentalement, bien sûr. Alors, on a encore, bien sûr, alors on peut reprendre des débats sur l'importance pour l'Europe, par exemple, du fameux Gulf Stream ou la dérive nord-atlantique et le courant atlantique de retournement, comme on dit, et qui aurait effectivement des conséquences pour le climat de l'Europe. En fait, c'est une espèce de boucle, c'est-à-dire que le climat perturbe la circulation, mais la circulation va aussi en retour perturber le climat, puisqu'on aura moins de plongées d'eau froide au large de la mer de Norvège, au large du Labrador, etc., etc. En fait, c'est un système complexe qui est en interaction. Alors, ce que les hommes ont du mal à comprendre, nous qui sommes habitués à cliquer, nous sommes les hommes du court terme, de l'instant, c'est que l'équilibre de l'océan, ça prend du temps. Et quand on le perturbe, ça prend aussi beaucoup de temps. Alors, sans être trop précis dans l'affirmation, mais si je lâche une molécule d'eau au large de la Norvège, donc elle va faire un espèce de tapis roulant, elle va plonger en profondeur, et puis on va la voir ressurgir, par exemple, au niveau devant le détroit de Bering, pour simplifier, et elle va revenir en surface. Pour faire ce tour-là, ce tapis roulant, il faut 2000 ans. Donc quand on perturbe une zone de l'océan, on a donc des conséquences pour les générations futures.
Laurent Bopp, parce qu'en effet, on remarque globalement à l'échelle de la planète un ralentissement des courants majeurs.
Oui, alors, de la même façon que le réchauffement des eaux de surface va conduire à une stratification de l'océan, ce réchauffement des eaux de surface qui s'accompagne aux hautes latitudes avec une baisse de la salinité, parce qu'il pleut plus, et aussi parce qu'on a un apport d'eau douce qui vient des continents. Donc, dans ces zones importantes dont parlait Paul, où se forment ces eaux profondes, en mer de Norvège, en mer du Labrador, on a des eaux de surface qui sont plus chaudes et qui sont moins salées, donc elles sont encore moins denses, et donc elles vont plonger de façon beaucoup plus difficile. Donc on a un ralentissement de cette ventilation, de cette formation d'eau profonde. Alors, je dois avouer que c'est encore discuté dans la littérature scientifique. On a des séries temporelles avec lesquelles on est capable de mesurer l'intensité de cette formation d'eau profonde seulement depuis à peu près 20 ou 25 ans. Beaucoup de variabilité naturelle, et donc extraire le signal anthropique, le signal lié au changement climatique, c'est difficile. Mais ce que nous disent à la fois la théorie, les projections climatiques et certaines reconstructions, c'est qu'on a effectivement aujourd'hui un ralentissement important de cette formation d'eau profonde. Donc cette eau profonde, c'est aussi celle qui amène l'oxygène en profondeur, d'où l'intérêt de s'en occuper aujourd'hui.
Voilà, avec la vitesse de renouvellement des eaux dont vous parliez il y a quelques instants également, Paul Tréguer. Alors comment a-t-on mesuré ces phénomènes au fil du temps ? Comment étudier ce phénomène de désoxygénation des océans ? Et quelles sont les conséquences sur la vie aquatique ? Restez à l'écoute.
Swim in the swim right over the dam, at the dam by the ocean. There's a little pool and it swim. Three little fishes and the mama fishy too. Swim, said the mama fish, you swim if you can, but don't ever
ever tried to swim over that dam. Swam right over the dam. The mama fisher said, boys, you better play it cool. You better not swim far away from this pool, 'cause if you do, it's easy to see. A big fish might see you and he might be hungry.
Little Fish de Buzz Clifford en direct sur France Culture, car on commence notre semaine spéciale océan avec un premier épisode sur les zones mortes. On en parle avec nos deux invités du jour, Laurent Bopp, océanographe, climatologue, chercheur au CNRS et directeur adjoint de l'Institut Pierre-Simon Laplace, et Paul Tréguer, océanographe, professeur émérite à l'Université de Bretagne Occidentale et fondateur de l'Institut Universitaire Européen de la Mer. On vient de voir que le nombre de zones mortes est en train d'augmenter, aussi bien sur les côtes qu'en plein océan. Ces zones hypoxiques côtières s'agrandissent principalement à cause de l'accumulation des nutriments issus de l'agriculture, comme les fertilisants. Mais Laurent Bopp, depuis quand étudie-t-on ce phénomène? Depuis quand s'en préoccupe-t-on?
Alors, sur l'eutrophisation côtière, il y a déjà des publications très très anciennes. Le fait que cet apport d'éléments nutritifs en zone côtière pourrait conduire à une consommation d'oxygène, ça c'est connu depuis très longtemps. Par contre, sur la perte d'oxygène dans l'océan ouvert, ça c'est bien plus récent. Ça fait seulement à peu près 25 ans qu'on s'en préoccupe. Oui, dans l'océan ouvert, c'est compliqué. Les zones sont très, très, très vastes. Et si on veut être capable de documenter la perte d'oxygène, il nous faut des séries temporelles assez longues pour essayer d'extraire un signal anthropique, un signal lié à l'activité humaine par rapport aux variations naturelles du milieu. Donc, il y a encore des débats, mais on a depuis les années 50 à peu près des données de mesure d'oxygène dans les eaux profondes. Et certains scientifiques ont finalement compiler ces ensembles de données depuis les années 50, et on est capable aujourd'hui de démontrer, par exemple, qu'à l'échelle globale, l'océan a perdu 2%, 2 à 3% de son oxygène. Donc ça, c'est en collectant toutes ces données depuis les années 50, et donc c'est des travaux assez récents qui ont permis de démontrer, à partir des données, à partir des observations, cette perte d'oxygène dans l'océan ouvert.
L'océan qui perd 2 à 3% de son oxygène, Paul Tréguer, avec quels outils, comment les échantillons d'eau sont-ils analysés pour réussir à parvenir à telles conclusions?
Juste avant de répondre à votre question, je vais compléter effectivement ce que dit Laurent. C'est qu'il y a une exception dans notre histoire, c'est l'histoire chimiste. Parce que les Allemands ont toujours eu, on fait un peu d'éloge, hein, d'excellents chimistes de l'eau en général et de l'eau de mer en particulier. Et dans la Baltique, ils ont des séries maintenant, une série de 100 ans, plus d'un siècle, c'est exceptionnel. Ce qui permet de voir effectivement l'évolution de la situation, les causes naturelles de la variation de l'oxygénation ou de la désoxygénation, et aussi le fait que même si on a depuis les années 80 diminué fortement les rejets de nitrate et de phosphate, la situation ne s'améliore pas parce que c'est un ensemble de facteurs qui jouent et qui en particulier déclenchent des marées rouges, des eaux rouges, etc. Mais je vais répondre à votre question. Comment est-ce qu'on mesure la teneur en oxygène? Eh bien, je suis une vieille barbe, n'est-ce pas? J'ai eu la chance de connaître cette époque révolue maintenant, où on prélevait réellement, grâce à des bouteilles un peu spéciales, quoi, de l'eau de mer, au bout d'un câble, sans rajouter d'oxygène, bien sûr, dedans. Hein. Donc on avait des prélèvements étanches. Et puis, arrivé sur le bateau, eh bien, on gelait un peu le phénomène par un procédé chimique, et on dosait après, au laboratoire, en quelque sorte, la teneur en oxygène. Maintenant, nous avons des sondes, comme dans bien, bien d'autres phénomènes, alors qui sont à la fois pratiqués sur les navires, mais bien mieux maintenant, les systèmes Argo, les flotteurs Argo, les profileurs Argo, qui nous permettent d'avoir des profils continus quand un profileur Argo descend, il va à 2000 mètres, pardon, 2000 mètres, quoi, et il a un profil à la montée et à la descente.
Ben on va aller voir justement ces sondes et ces instruments avec leur reportage du jour.
Bonjour Natacha.
Ah non, c'est pas tout de suite encore Céline Lauzen. Dans quelques instants, on retrouve Céline Lauzen. Mais d'abord, un rappel hein, pour dire que la baisse de concentration en oxygène s'observe globalement dans l'océan et plus particulièrement en zone côtière, dans les régions des deltas et des estuaires. Ces évolutions sont surveillées par des campagnes océanographiques avec de l'instrumentation de pointe. C'est ce que nous sommes partis découvrir au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Et c'est avec vous Céline Lauzen. Bonjour.
Bonjour Natacha, des instrumentations, oui, déployées depuis les bateaux comme des sondes calibrées par des techniques physico-chimiques. Christophe Rabouille, directeur de recherche à CNRS, dévoile ces méthodes qui visent à analyser chimiquement la concentration d'oxygène dans l'eau, mais également dans les sédiments où se niche une faune diversifiée. Ces mesures se complètent aussi par l'usage de profilers préprogrammés qui assurent ces mesures sous l'eau, notamment dans les zones côtières, en période de crue où l'eutrophisation augmente.
Pour étudier la désoxygénation des milieux, on utilise pas mal d'instrumentations qu'on déploie à partir des bateaux, donc notamment des sondes qui sont capables de mesurer l'oxygène directement dans l'eau, en fait. Hein. Pour calibrer ces sondes, on utilise des moyens qui sont des moyens de chimie de laboratoire. Donc on peut mesurer l'oxygène avec un titrateur, je peux vous en montrer pour l'oxygène.
Un titrateur, c'est pour mesurer la concentration ?
C'est ça. On a ici un appareil qui va dispenser un réactif à travers les tuyaux et qui ensuite va calculer effectivement le point d'inflexion de la courbe et nous donner effectivement la valeur précise d'oxygène mesurée au laboratoire. Ça, c'est pour la partie aquatique du milieu. Et nous, on travaille beaucoup sur les sédiments. Parce que dans les sédiments, il y a aussi une partie oxygénée dans laquelle vit une faune...
Benthos, par exemple.
Voilà, la faune benthique. Et donc, on utilise, donc pour étudier ces milieux-là, on utilise des micro-électrodes. C'est comme celles qu'on voit là-bas, comme ça.
Ah oui, qui sont connectées voilà. À des tubes.
Et alors, on enlève le tube ici, et c'est cette électrode qui est très très fine, que vous voyez ici, en pointe, ici.
C'est la pointe d'une seringue.
Voilà. Et qui a la forme d'une pointe de seringue en verre, rentre progressivement dans le sédiment. Donc elle est pilotée par des micro-manipulateurs, comme ça, elle rentre progressivement dans le sédiment. Donc chaque pas fait à peu près l'épaisseur d'un cheveu, et ça permet justement de mesurer pas par pas l'oxygène dans la partie sédiment, donc dans la fine couche en milieu côtier qui est oxygénée, dans laquelle vivent un certain nombre d'espèces dont c'est le milieu, en fait. Hein.
Mais ces bras articulés, on les embarque à bord du bateau, on ne peut pas les emmener dans les profondeurs.
Alors, ces bras articulés-là sont faits pour travailler au laboratoire. Mais on a le pendant, si vous voulez, on va bouger, on va aller dans l'autre partie du laboratoire, qui est un hall dans lequel on équipe nos profileurs, ce qu'on appelle nos profileurs, in situ. C'est-à-dire qu'on peut faire cette mesure-là avec les micro-électrodes et le micro-manipulateur, on peut la faire directement en mer, sous l'eau, à 20, 30, 50, 100 mètres de profondeur.
En le pilotant depuis le bateau.
Alors, ça se présente sous la forme d'un gros cadre métallique qui fait à peu près 1,50 m, un gros triangle d'1,50 m de côté, dans lequel est implanté un profileur. Alors, ce profileur, en fait, il va fonctionner. Il est préprogrammé, il va fonctionner tout seul au fond de la mer. Donc on le préprogramme pour pouvoir justement faire ses mesures pas à pas avec des pas très fins. Il est donc équipé d'un moteur qui peut faire descendre l'ensemble de l'électronique et des électrodes qui est implanté dans un caisson qu'on voit ici, les électrodes étant implantées en dessous. Donc on déploie depuis le bateau l'ensemble de ce cadre avec le profileur préprogrammé. Et quand il va arriver au fond, il va attendre un peu de se stabiliser et il va commencer à faire ses mesures en descendant progressivement dans le sédiment, pas par pas. Et là, de nouveau, on fait des profils avec une résolution de 200 microns. Voilà. Et avec cet appareil-là, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va étudier aussi l'aspect un peu impulsionnel quoi, de la demande en oxygène. C'est-à-dire que de temps en temps, vous avez des dépôts massifs de sédiments. Et notamment, nous, ce qui nous intéresse, c'est les deltas des fleuves. Et dans les deltas des fleuves...
Il y a beaucoup d'apports
Voilà, il y a beaucoup d'apports du fleuve en lui-même. Alors, en partie industriel, en partie lié à l'érosion des terres, en partie lié aux apports des villes,
de matière,
par exemple. Voilà, il y a beaucoup de matière qui est transportée, notamment pendant les crues. Et à ce moment-là, pendant les crues, le dépôt peut être de plusieurs dizaines de centimètres en quelques jours. Donc on veut savoir justement, une des choses qu'on veut savoir, c'est comment ces apports massifs sont soit préservés, soit recyclés, transformés, et vont permettre justement une surconsommation ou une sous-consommation de l'oxygène pendant ces périodes. Alors justement, on est en train de préparer là, vous voyez ici l'appareil, on a tout un tas de réactifs là. On est en train de préparer cet appareil qu'on va emmener dans une quinzaine de jours dans le golfe du Lion. Donc au large, on va partir de, en gros, à côté de Marseille, vers le Rhône. On va aller vers l'ouest, dans toute la partie golfe du Lion. On aura une escale à Sète, une autre escale à Port-Vendres. Et donc on va couvrir, en fait, jusqu'à Bagnols-sur-Mer, là, jusqu'à l'Espagne, en fait. Donc on va couvrir toute cette zone-là avec une quinzaine de stations.
C'est très étendu, en fait, comme zone.
Ah, c'est très étendu. Alors on va faire quelques points. Hein. C'est le principe de l'océanographie, c'est que, justement... souvent, on a des mesures qui sont très ponctuelles dans des étendues qui sont extrêmement grandes. Et maintenant, on a aussi des moyens mobiles. On développe de plus en plus de moyens mobiles qui permettent de mesurer, justement, dans la mobilité, en fait, les paramètres qui nous intéressent.
Plus en particulier, qu'est-ce que vous avez pu observer sur le golfe du Mexique ?
Alors, dans le golfe du Mexique, on voit justement des désoxygénations assez poussées dans les eaux de fond, à cause de ce phénomène de production de matière organique, de plancton en surface qui tombe dans le fond, et en même temps le réchauffement ferme la zone de surface. C'est ce qu'on appelle la stratification. Donc ces deux phénomènes conjugués font que dans le fond de la marmite, les bactéries, la faune consomment la matière organique et respirent de l'oxygène, comme nous on le fait. Hein. Et donc ils appauvrissent la couche d'eau de fond d'oxygène. Il y a aussi le sédiment qui consomme de l'oxygène, toujours avec les bactéries et la faune. Et donc toute la colonne d'eau plus les sédiments consomme tout l'oxygène. Ce qui fait qu'au bout de quelques semaines, il n'y a plus d'oxygène dans l'eau. Et la faune qui vit là, en fait...
Elle migre
quand elle peut. Et celle qui ne peut pas, du coup, elle meurt. D'où le nom de dead zone. Mais la plupart de la faune finit par mourir.
Merci Céline Lozen. Tous nos reportages en immersion sont à retrouver en podcast dans la collection La Science au Labo. Paul Tréguer, une réaction à l'écoute de ce reportage ?
C'est un plaisir d'abord d'écouter Christophe Rabouille, avec lequel j'ai eu la chance d'embarquer relativement souvent, y compris dans les mers australes, et pour étudier effectivement ce qui se passait dans les sédiments profonds. En fait, on voit tout de suite que dans ce que décrit Christophe, on devient très performant en matière de technologie. Donc ce qui nous permet d'avoir, il a prononcé le mot pulsionnel, donc on est capable de faire du court terme, c'est-à-dire de voir les réactions des organismes dans des petits intervalles de temps. Donc on a vraiment fait beaucoup de progrès, et c'est pour ça qu'il faut soutenir la science dans les temps où elle est parfois remise en question.
Voilà, alors d'ailleurs, à ce propos, on va parler du golfe du Mexique, donc, comme on entendait parler dans ce reportage. Laurent Bopp, le golfe du Mexique, c'est la deuxième zone morte la plus importante au monde. Mais quelles sont les conséquences sur la vie aquatique de ces dead zones, finalement? Comment impacte-t-elle la biodiversité marine?
Oui, donc cette dead zone dans le golfe du Mexique, c'est une des zones mortes sans doute les mieux documentées. Nos collègues américains travaillent sur cette zone morte depuis très longtemps, en documentant les niveaux d'oxygène et puis en explorant la façon dont ces niveaux d'oxygène affectent la vie marine. Donc cette dead zone, pour avoir une petite idée de la surface, c'est énorme, hein, c'est près de 7000 km², donc c'est une surface très importante, dans laquelle les niveaux d'oxygène en profondeur sont très très faibles, en dessous des seuils dont on a parlé tout à l'heure. Alors oui, la vie marine dans ces zones-là, donc c'est ce que disait Paul, c'est pas vraiment une zone morte. On va trouver des organismes de toute petite taille, des bactéries, donc une vie très différente de celle qu'on a en dehors de ces zones mortes. Oui, la vie marine ne ressemble pas du tout à ce qu'il y a autour de la zone morte. Donc on va trouver moins d'organismes de grande taille qui ont besoin de beaucoup d'oxygène pour survivre. Donc évidemment moins de poissons, moins d'organismes benthiques qui vivent sur le fond et qui ont besoin d'oxygène pour survivre. Et donc une modification complète de l'écosystème.
On a ce golfe du Mexique, hein, ces eaux, je rappelle, fournissent à l'Amérique 40% des produits de la mer, donc aussi avec des conséquences très claires aussi sur les humains. Mais Paul Tréguer, vous me montrez pendant l'interlude musical, vous me montrez donc une carte sur laquelle est référencée la trajectoire des requins. Ça aussi, c'est une des conséquences des zones mortes sur les animaux marins.
Alors, c'est une belle histoire qui est due à mes collègues, une équipe internationale dirigée par Warren. Alors là, ce qu'ils ont fait, ils ont en quelque sorte tagué, mis les puces, si on peut dire, dans des requins bleus et des requins top bleus, qui sont des migrateurs. Migrateurs, ils sont capables de faire plusieurs centaines de kilomètres. Hein. Donc, c'est vraiment pas des organismes qui se laissent enfermer dans des zones perturbées. Mais ils chassent des petits pélagiques. Et ce que l'on a constaté, c'est que leur mouvement avait tendance à concentrer les petits pélagiques, surprise, vers les zones à minimum d'oxygène, qui sont au large de la Mauritanie et de Dakar, du Sénégal en l'occurrence. Quoi. Alors, c'est un peu bizarre, parce qu'on ne va pas concentrer des petits pélagiques vers des zones mortes, dans lesquelles les grands prédateurs ne pourront pas les capturer. Alors, l'explication de Warren est la suivante, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle est amusante, c'est que, dans le fond, dans cette zone à minimum d'oxygène, la couche de surface est relativement restreinte. Donc, le volume pour les attraper est donc restreint. Par conséquent, c'est un lieu idéal pour chasser en meute. Voilà l'explication donnée.
Laurent Bott.
Oui, c'est intéressant. Et on peut faire un lien avec ce dont on discutait tout à l'heure, la perte d'oxygène de l'océan. Finalement, un grand nombre d'organismes marins qui ont besoin d'oxygène, ils vivent dans la couche de surface qui est très oxygénée. Et donc, ils sont distribués entre la couche de surface de l'océan et puis ce qu'on appelle le toit de la zone de minimum d'oxygène. Donc, cette frontière entre les eaux très oxygénées en surface et puis des eaux beaucoup moins oxygénées en profondeur. Donc, ils vivent entre la surface et puis quelques dizaines, centaines de mètres de profondeur au grand maximum. Avec la déoxygénation de l'océan, ce toit qui surplombe le minimum d'oxygène va remonter vers la surface. Donc on a aussi une contraction de l'habitat d'un grand nombre de grands organismes marins. Il y a des travaux très intéressants de collègues américains qui ont eux aussi tagué des espadons et qui montrent que ces espèces naviguent finalement entre la surface et dans cette frontière, dans ce toit de la ZMO, mais de cette zone à minimum d'oxygène. Mais si ce toit remonte vers la surface, leur habitat va, par définition, se contracter.
C'est des espadons de l'océan Indien, c'est cette étude-là dont vous parlez ?
Alors, je parle d'une autre étude.
Ah, d'accord.
Aussi au large de l'Afrique, au large du Sénégal, donc en lien avec cette zone de minimum d'oxygène. Oui.
Mais on voit en effet qu'il y a un impact sur la répartition des espèces au sein de l'espace océanique, mais aussi quand même, il y a ces épisodes de mortalité très forte de poissons, Laurent Bopp, qu'on peut également raconter.
Oui, alors il y en a beaucoup, des épisodes de mortalité qui sont massifs, hein, de poissons. On va retrouver un certain nombre de poissons morts sur les plages. Ils ont été documentés dans le golfe du Mexique, ils ont été documentés en mer Baltique, ils ont été documentés aussi en mer d'Arabie, de façon assez importante ces dernières années. Alors, dans des estuaires, il y a des travaux de collègues indiens sur l'estuaire de la Tipta qui montrent ces épisodes de zones mortes, alors souvent saisonniers, mais qui vont conduire à ces épisodes de mortalité d'un grand nombre d'espèces aquatiques. Donc oui, on est capable de faire le lien entre les facteurs dont on parlait tout à l'heure, le changement climatique, l'eutrophisation, la baisse d'oxygène, la perte d'oxygène, l'augmentation du nombre de ces épisodes sans oxygène et leurs impacts sur le vivant avec ces épisodes de mortalité.
Paul Tréguer.
En fait, on voit que, en l'occurrence, les organismes sont affectés. Ceux qui sont mobiles peuvent fuir. Je rappelle une phrase célèbre de Jules Verne, mobilis immobile. Donc, ils peuvent se déplacer, ceux-là peuvent fuir, en l'occurrence. Quoi. Mais ce n'est pas le cas pour des productions locales, donc à faible mobilité, y compris, par exemple, des coquilles Saint-Jacques, même si elles sont capables de bouger, hein, mais c'est relativement limité, ou des organismes, donc des coquillages. Quoi. Donc, effectivement, il y a des risques de voir s'étendre ces zones, alors mortes, entre guillemets, encore une fois, ça n'est ni bon pour les ressources, et en particulier pour les ressources exploitables marines.
Alors que peut-on faire ? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, pour une semaine spéciale Océan, nous parlons des dead zones avec Laurent Bopp, Paul Tréguer. On parle donc de ce phénomène de désoxygénation des océans. Ce sont des phénomènes réversibles. Laurent Bopp, alors comment limiter leur apparition ?
Oui, on a parlé des causes. Et donc quand on parle de solutions, il faut réfléchir aux causes. Donc évidemment, les deux grandes solutions pour limiter cette perte d'oxygène sont l'atténuation du changement climatique, donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre en stabilisant le changement climatique va limiter la vitesse à laquelle l'océan perd de l'oxygène. Et en zone côtière, en lien avec cette multiplication des zones mortes, c'est une meilleure régulation de l'utilisation des engrais, par exemple, qui pourrait limiter les apports d'éléments nutritifs en zone côtière et donc la multiplication de ces zones mortes. Donc il faut travailler à la fois à petite échelle, locale, régionale, avec des régulations plus importantes qui permettraient de limiter les apports à l'océan de matière organique ou de matière nutritive, et puis à très grande échelle, travailler tous ensemble pour limiter le changement climatique.
Paul Tréguer, d'après de nombreux scientifiques, il est aussi essentiel de mettre en place des zones refuges pour les espèces qui fuient justement les zones hypoxiques.
C'est donc la question des aires marines protégées. Alors c'est effectivement un processus qui est en cours maintenant depuis quelques temps, avec pour la France en Méditerranée la zone de Port-Cros, qui s'est développée également en Bretagne et qui se développe de façon plus générale au niveau mondial. Donc c'est une ambition, je dirais, qu'il faut absolument soutenir. Alors, ça n'est pas directement lié à ces phénomènes de zones mortes. C'est au large, heureusement, puisque précisément elles sont protégées. Mais c'est une façon, je dirais, de comprendre comment les cycles naturels marchent. Quand on s'arrête de pêcher, donc il y a bien sûr un impact économique. Mais de fait, chaque fois que l'on a fait cela, c'est-à-dire qu'on a protégé les zones des prédateurs, y compris des prédateurs Homo sapiens, eh bien, immédiatement, en quelques années après, le système, l'écosystème a récupéré et autour, les pêches sont revenues très productives. Ce mouvement est en place, c'est une des grandes ambitions, je crois, du président de la République dans le cadre de l'IDOC, développer ces zones, effectivement. Et je crois qu'il faut soutenir cette action. Alors, j'avais peut-être une autre remarque à faire. J'ai eu la chance d'écouter, toujours dans le congrès scientifique qui a précédé l'UDOC, à l'intervention de John Kerry, qui est l'ancien secrétaire d'État, comme vous le savez, précédent aux USA. Alors, c'est pas du verbatim. En gros, il dit ceci, quoi. Nous connaissons les causes de la perturbation climatique et de la perturbation de l'océan. Nous connaissons les causes. Nous savons ce qu'il faut faire pour y mettre fin. Eh bien, faisons-le. Et laissons de côté, une chic d'ode, c'était son mouvement, laissons de côté tous ceux qui résistent et qui essayent de travailler au court terme. Voilà. C'est un message qui est assez fort, je trouve, et qui est un message d'espoir pour que le changement est possible.
On arrive à la toute fin de cette discussion. Laurent Bopp, là, on vient d'évoquer en effet ces solutions assez logiques pour lutter contre ces zones hypoxie. Mais il y a aussi des expériences qui ont été faites sur de l'oxygénation artificielle. Quels sont les résultats de ces expériences-là ?
Oui, je dirais compliqué, sans doute pas terrible. On peut même dire ça. L'idée, c'est de reprendre finalement des technologies qui ont été déjà développées pour des lacs, où on a aussi des problèmes d'eutrophisation, et donc dans un lac, il y a évidemment beaucoup moins d'eau, et donc de réoxygéner de façon artificielle les eaux d'un lac en subsurface, ça peut sembler finalement une solution acceptable. L'idée, c'est de faire buller de l'air dans l'eau, ou même d'injecter directement de l'oxygène, et certains ont tenté ça dans des estuaires, dans des zones côtières. Donc on a encore besoin, sans doute, d'un peu d'années et de beaucoup d'études pour savoir si c'est une solution. De toute façon, ça sera une solution très locale et on ne pourra pas contrer l'ensemble de la déoxygénation.
Et puis l'anoxie revient très rapidement et c'est sans parler des risques écologiques que ça implique. Merci. Dans quelques secondes, on écoute Alexandre Adelbeau, mais merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Tout de suite, on part pour les Outre-mer, mais pour y évaluer l'apprentissage de la lecture, c'est la chronique avec science.
Les enfants en Martinique présentent-ils des retards dans l'apprentissage de la lecture? Les territoires d'outre-mer font face à des inégalités particulièrement importantes, des fragilités économiques et sociales qui existent de façon beaucoup plus prégnante que dans l'Hexagone et se retrouvent dans un certain nombre d'indicateurs. On peut citer le niveau de vie, les écarts de prix, le chômage, la mortalité infantile et les échecs scolaires. C'est ce que pointent plusieurs rapports gouvernementaux, notamment en 2024, celui du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Stéphanie Ducrot est chercheuse CNRS au laboratoire Parole et Langage de l'Université d'Aix-Marseille.
Pour vous donner un exemple concret, c'est la journée défense et citoyenneté en 2023 qui a montré que le taux de jeunes adultes en situation de très grande difficulté de lecture, il était de 28 à 53% dans les départements d'outre-mer contre seulement 12% en France hexagonale. Et dans le même sens, ou dans le prolongement, je dirais, c'est aussi dans ces départements d'outre-mer qu'on va trouver le taux de sortie sans diplôme le plus élevé de l'éducation nationale. Donc on est entre 25 et 50%, alors que dans ces diplômes, on inclut le brevet également. Donc c'est pour toutes ces raisons que le CESE a déclenché en 2024 un plan d'urgence pluriannuel pour répondre aux besoins éducatifs des territoires ultramarins. Ça a été véritablement cette urgence qui a dit qu'il faut trouver quelque chose, il faut trouver des solutions pour s'attaquer à ces niveaux de décrochage scolaire et d'illettrisme trop importants.
40 à 70% des élèves ne disposent pas du niveau suffisant pour lire à l'entrée de la sixième. Ces chiffres et les précédents proviennent d'évaluations statistiques, des tests passés de façon collective avec des tranches d'âge très variables et dans des conditions changeantes. Ces paramètres ne sont donc pas finement contrôlés, c'est pourquoi une nouvelle étude parue dans l'International Journal of Educational Development et dont cette chercheuse est la première autrice s'est proposée d'aller vérifier ces proportions. Pour cela, 400 élèves martiniquais de 6 à 11 ans et 1100 enfants de la métropole ont passé en parallèle le test dit de l'Alouette. C'est une méthode pour évaluer les compétences en lecture. Voici par exemple deux morceaux de phrase. Le printemps a mis ses nids, le printemps a nid au bois. Vous n'avez rien compris et c'est normal parce qu'il n'y a rien à comprendre. C'est un texte qu'on dit non signifiant. Les mots existent, ils sont à la bonne place, mais la phrase n'a pas de sens. Le but est que l'enfant ne parvienne pas à deviner le mot d'après avec celui d'avant. Il doit donc déchiffrer chaque mot un à un. Résultat de ce test, la moitié des enfants martiniquais sont en difficulté de lecture contre seulement 17% en métropole.
Effectivement, on confirme la situation dramatique de retard de lecture puisque ça représente 50% des enfants et surtout ça représente des enfants sur tous les niveaux scolaires. Il n'y a pas un niveau scolaire spécifique. Par exemple, on aurait pu penser que les enfants au tout début de l'apprentissage de la lecture pourraient être plus en difficulté et qu'ensuite, une sorte d'équilibre pouvait se rétablir au fur et à mesure de la scolarisation. Ce n'est pas le cas. Ces difficultés, non seulement elles se maintiennent, mais elles ont même tendance à s'aggraver au fur et à mesure des niveaux scolaires. Et ce qu'on a aussi observé, c'est qu'effectivement, les élèves martiniquais, par rapport aux élèves en France hexagonale, commettaient plus d'erreurs. Ce qui n'est pas forcément typique. Donc, quand les élèves sont en situation de difficulté de lecture, très souvent, ils sont plus lents. Et là, effectivement, les élèves martiniquais manifestaient aussi cette lenteur, mais en plus de ça, ils commettaient plus d'erreurs et ils témoignaient aussi de difficultés associées d'ordre visuo-attentionnel de façon plus importante que les élèves en France hexagonale.
Pourquoi l'écart est-il aussi fort? Ce sera l'objet de prochaines études, mais on peut évoquer déjà plusieurs pistes. D'abord, la langue enseignée n'est parfois pas la même que celle parlée à la maison, le français d'un côté et le créole de l'autre. Mais surtout, les élèves qui ont le plus de difficultés dans cette étude sont ceux qui ont le moins de ressources financières et qui sont les moins exposés à des livres. L'accompagnement pour limiter le risque de décrochage peut donc se faire à différents niveaux, à l'école pour accompagner les élèves en difficulté, mais aussi au travers d'actions de soutien à la parentalité pour encourager, par exemple, les parents à faire de la lecture partagée avec leur enfant. Pour détecter le plus précocement possible ces difficultés, l'étude révèle qu'un autre test présente la même efficacité que celui de l'Alouette pour évaluer les compétences de lecture. C'est le test dit DEM. Il n'utilise pas de mots, mais des chiffres sous la forme d'une matrice et pourrait donc être utilisé bien avant d'apprendre à lire.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute.
Et merci à toute l'équipe de la science CQFD, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Lou Anger, Alexandre Morales, Loïc Dutoit. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Élise Le. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.